Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le temps, il court, loin du silence des abbayes, de celui que l'on peut éprouver quand on est en pleine nature, en forêt, en montagne, au bord de la mer, où le temps semble s'écouler plus lentement au point de le déguster et de sentir la réalité se dilater. Nos vies, la plupart du temps, peuvent ressembler à une course, une fuite en avant, même chronométrée. Des journées au cours desquelles chaque minute est comptée et dans lesquelles les relations et les communications se multiplient. Est-ce une fatalité? Peut-on reprendre la maîtrise de son temps et par là de sa vie? C'est ce que nous allons voir ce matin. Voilà, François de Berthier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes consultant en management à la tête d'une société de conseil qui s'appelle Vixter Consulting et par ailleurs chef d'entreprise. Et votre spécialité, c'est la maîtrise du temps. Alors, je suis très intéressé par cette émission. Je pense que ça fera sourire mes collègues et je pense que je ne serai pas le seul. Alors au début de cette émission, l'idée avec vous, c'était de parcourir un petit peu les grandes tendances de notre société rapidement, évidemment. Donc je lisais en préparant cette émission que 54% des Français, donc je me sens un peu moins seul, ont l'impression de manquer de temps. Est-ce que vous diriez que c'est propre d'être donc sursollicité, d'être un peu en hyperactivité et aspire donc à un ralentissement de leur vie? C'est même un nom maintenant, le slow, voilà, le slow food et tous ces dérivés. Est-ce que c'est propre à notre vie moderne et est-ce que de fait la course s'accélère?
Oui, elle s'accélère du fait des moyens nouveaux qui sont à notre disposition. C'est très clair. La première chose qu'il faut dire, c'est que pendant des siècles, l'homme a laissé faire la nature en matière de temps. Nous étions dans une société rurale pendant laquelle, finalement, on avait des saisons qui rythmaient notre vie, le temps des récoltes, le temps des moissons, le temps du labour, et puis le jour et la nuit nous imposaient le sommeil et l'activité. Donc finalement, c'est avec l'urbanisation et la société 19e, 20e siècle que les choses se sont précipitées et dégradées, parce que l'homme avait perdu ses repères. Donc aujourd'hui, effectivement, il croit qu'il peut tout faire. Il oublie une chose, c'est que le temps nous est tous compté. On commence dans la vie sans savoir quel est notre capital temps. Pourquoi il y en a qui meurent à 20 ans et d'autres à 95 ans? On ne sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous nous comportons tous comme si on avait une réserve inépuisable de temps et que finalement, il suffisait de piocher dedans. Et plus on est concentré sur le présent, plus on a tendance à ignorer le futur. Donc c'est là qu'il y a une réflexion à mener, effectivement, et des choix à faire.
Alors, je lisais aussi en préparant cette émission, et on en parle souvent à cette antenne, et pas qu'à cette antenne, de plus en plus, les gens sont, plus en plus de salariés sont concernés par ce qu'on appelle pudiquement le burn-out. Voilà, donc derrière cette expression, il y a en fait des réalités très, très douloureuses pour un salarié. C'est-à-dire qu'en gros, un salarié ou un chef d'entreprise, à un moment, explose en plein vol. Donc c'est un espèce de choc psychologique. Un jour, on est complètement épuisé, comme jeté sur la plage, n'arrivant plus en fait à faire face à la réalité. 17% des salariés en France seraient en danger de burn-out, et on peut imaginer même que chez les cadres, c'est encore plus important. Vous, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous faites du conseil sur ce sujet. C'est pareil, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Le sujet du burn-out, c'est effrayant quand on est proche des cadres et autres dirigeants.
C'est un sujet auquel on est confronté très souvent. Et j'ai moi-même eu un cas dans mon entreprise en 2015. Donc c'est pas exceptionnel, on en a proche de nous. On parle du burn-out, il faut parler aussi de la dépression. C'est une autre forme de décrochage, entre guillemets. Alors, de quoi ça vient? Ça vient d'une part du fait qu'on est un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'on voudrait faire. On veut vivre, on veut prendre des initiatives, on veut vivre des expériences, etc. Et on a tendance à accumuler les choses sans jamais se donner le temps de la récupération. Le problème, c'est que le temps, quelque part, c'est une réserve d'énergie vitale. Et cette réserve d'énergie vitale, il faut la reconstituer. À partir du moment où on pioche sans arrêt dans un frigidaire, par exemple, à un moment donné, il sera vide. Et là, l'énergie, c'est pareil. Et à un moment donné, il faut reconstituer son énergie. Et il y a une première chose qui est essentielle en la matière, qui est le sommeil. On tire sur la corde du sommeil et on a plus de 80% des gens qui sont en manque de sommeil, en chronique. Dette de sommeil, chronique. Voilà. Et on se dit toujours, je me rattraperai ce week-end. Mais on ne se rattrape pas le week-end. Parce que le week-end, c'est encore plus du temps pour vivre que le reste de la semaine. Donc on est encore plus ambitieux sur ce qu'on voudrait faire. Et donc finalement, on n'a jamais le temps de se rattraper, sauf pendant les vacances. Et c'est là que si on prend des vacances qui ne durent que 8 jours, on n'a pas le temps de rattraper le sommeil perdu et de se remettre à flot.
Parce qu'on a envie d'en profiter.
Voilà. Mais il faut au minimum 15 jours de vacances consécutives. Là aussi. Et on a plus besoin d'ailleurs de vacances l'hiver que l'été. L'été, on a un contexte qui nous stimule, qui est plus facile, alors que l'hiver, le contexte est plus frustrant. Hein, regardez le temps d'aujourd'hui, c'est pas très engageant. Et puis, donc c'est là qu'on a encore plus besoin de se reposer en réalité. Donc, il y a un arbitrage à faire. Il faut arrêter de dire qu'on peut tout faire à tout moment.
Mais vous qui croisez des cadres et des chefs d'entreprise, est-ce que le burn-out, vous avez l'impression de fait que c'est espèce d'épidémie ou c'est...
On veut aller de plus en plus vite. Notre problème aussi, c'est le rapport avec la vitesse. Il y a quelques années, on voulait faire passer un message à quelqu'un, outre le téléphone, on envoyait un courrier qui mettait entre 3 et 4 jours. Donc, on avait tendance à anticiper les choses. Aujourd'hui, on envoie un courriel. Je peux vous envoyer un courriel il y a un quart d'heure pour quelque chose qu'on va faire ensemble maintenant. Et donc, si...
Je l'aurais pas lu.
Oui, mais voilà, si c'était important, on va avoir un problème. Donc il va y avoir un stress, il va y avoir une tension, il va y avoir des malentendus, des incompréhensions, des conflits. Et regardez dans la vie politique, par exemple, aujourd'hui, tous les défauts de communication qu'il y a. On annonce des grandes réformes, par exemple, actuellement, auxquelles on n'a pas du tout préparé les gens. Donc à un moment donné, si on n'a pas pris le temps de partager des analyses avec les gens avec lesquels on est en rapport, ben, ils ne comprendront pas pourquoi on prend telle et telle initiative ou telle et telle décision. Et donc ça va les stresser, ça va les mettre en méfiance, en défiance. Comment on peut créer un climat de confiance? C'est ça qui est important. Et les gens qui sont en burn-out, c'est à un moment donné des gens qui ont perdu confiance, et d'abord en eux-mêmes. Et la première chose importante pour se construire, c'est l'estime de soi, tous les psychologues le diront.
Alors, dernière chose avant qu'on fasse une première pause, c'est évidemment comment ne pas parler des écrans. Vous en avez parlé un peu, c'est-à-dire que maintenant, on a tous un téléphone portable, même professionnellement, on est tous censés avoir un téléphone portable, donc être constamment joignable. Dans certaines entreprises, alors grâce à Dieu, ce n'est pas le cas à Radio Présence, vous avez même des patrons qui vous envoient des messages le matin, le soir ou le week-end, et parfois vous êtes obligé, avant d'arriver en réunion, d'avoir consulté quasiment sous la douche votre téléphone portable, de façon à être au courant de ce que votre patron voulait vous dire. Alors je ne jette pas toute la faute sur les patrons, toujours est-il que ces moyens de communication entraînent une accélération, la place des écrans prend de plus en plus de place aussi, ça on peut peut-être en dire un mot, pas seulement dans la vie professionnelle, mais dans la vie privée. Je disais en préparant l'émission que les Français tournent donc à plus de 2 heures, ne serait-ce que de télé par jour, et puis si on rajoute l'ordinateur, même sur le temps personnel, c'est aussi de plus en plus important. Ça, on a envie de dire, on ne peut pas y échapper. Donc après, on verra dans une seconde partie comment essayer de vivre au mieux tout ça, voire d'en faire un atout, mais c'est une réalité.
C'est presque une maladie pour moi. C'est-à-dire qu'on est devenu complètement dépendant de nos outils de communication. Et c'est vrai que quand on voit les gens en réunion, dans un spectacle, ou lors d'une cérémonie, par exemple, avec leur téléphone à la main en train de consulter leur texto, on se dit « mais c'est épouvantable ». Vous avez des gens dont le téléphone sonne en permanence. Et donc, outre le fait que c'est un peu déplaisant pour les gens avec qui ils se trouvent, c'est vrai que ça va solliciter leur attention en permanence, et ça va les empêcher de pouvoir se reposer, réfléchir, se détendre, et à un moment donné, ils vont être complètement dépendants, addicts, à un outil qui était fait pour leur faciliter la vie et qui va leur compliquer.
Laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps, je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, ailleurs. peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs, destination ailleurs. On peut faire une pause dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. Destination ailleurs.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, une émission sur le thème « Maîtriser son temps, mission impossible, point d'interrogation » avec François de Berthier. Vous êtes consultant en management, donc à la tête d'une société, entre autres, qui s'appelle Vixter Consulting, et par ailleurs, chef d'entreprise, une entreprise de logistique d'une trentaine de salariés. Donc, on le disait à la pause, pendant la pause musicale, vous avez aussi les deux pieds dans la boue, voilà, dans la glaise, comme on dit. Alors maintenant, les solutions après le constat. Alors évidemment, on va pas faire le tour des solutions en si peu de temps, mais alors vous me disiez en préparant cette émission, la première chose importante, c'est d'apprendre à trier, à prioriser. Voilà, on peut pas tout faire, donc il faut, avant d'agir, réfléchir. Alors expliquez-nous, parce qu'on a envie de dire, sur le papier, on veut bien y croire, tout à chacun s'y essaye. On a aujourd'hui une maladie qui s'appelle la maladie de la to-do list. On fait constamment des to-do list. Alors peut-être parfois qu'on met aussi des ordres de priorité sur cette to-do list. Alors dites-nous, pourquoi c'est aussi important de commencer par ça?
Ben parce que finalement, quand on aborde le futur, on est obligé de s'y projeter. D'où la nécessité de faire un véritable projet. Quel est mon projet de vie? Quand on se marie, par exemple, avec quelqu'un, on a un projet de vie. Quand on embrasse une profession, on a un projet de vie professionnelle. Donc à chaque fois, on a une projection sur le futur et on a beaucoup de mal à se projeter sur le futur. On a une relation au futur qui est difficile. Et c'est clair que plus on aborde cette relation au futur de façon improvisée, plus finalement on se complique soi-même les choses. Et il y a une petite recommandation que je fais souvent aux gens qui les étonne. Mais réfléchissez, vous verrez que c'est pas stupide. Quand on est en début d'année, on trouve tout à fait normal d'envoyer des cartes de vœux aux gens qu'on aime bien, à qui on souhaite des bonnes choses. Pourquoi ne pas s'envoyer une carte de vœux en début d'année à soi-même, en se souhaitant, nous aussi, de bonnes choses? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme avancée dans l'année qui arrive? Quels sont mes choix, entre guillemets? Quels sont mes projets? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire à la fin de l'année? Ça y est, ce point-là, il est réalisé. J'ai avancé là-dessus. Donc je crois qu'on peut pas apprendre le temps si on n'est pas capable de matérialiser un projet. Alors c'est encore pire dans les entreprises et dans les pays. À partir du moment où on n'a pas un véritable projet politique, projet économique, projet commercial, ben c'est clair qu'on va faire de l'improvisation permanente et c'est toujours catastrophique.
Alors, récemment, vous avez une émission sur une formation qui s'appelle Pasteur selon mon cœur, voilà, qui je crois, enfin, qui existe en France, mais qui est plus ou moins inspirée d'une réalité américaine, où les paroisses sont invitées comme ça à recevoir une vision de Dieu, c'est-à-dire leur projet, entre guillemets, le projet de la paroisse. Tout le monde, en même temps, n'est pas forcément très, comment dire, chacun a des formes d'esprit différentes, on verra ça peut-être après. C'est pas facile pour tout le monde de faire des projets, d'avoir des projets de vie. Il y a des gens qui sont plus ou moins dans le présent, d'autres plus dans le futur.
C'est évident.
Des capacités de conceptualisation. Donc on peut pas tous aller voir Vixter Consulting. Donc,
non, mais de toute façon, il y a d'autres gens que moi qui s'en occupent. Hein. Mais si vous voulez, on a tous besoin de balises. On peut prendre l'exemple de l'avion. L'avion, quand il atterrit quelque part, il a besoin d'avoir un certain nombre de balises préalables. Hein. 6 km avant la piste d'atterrissage, il y a une balise. 3 km avant, il y en a une autre. Et au début de la piste, ou 1 km avant de la piste, il y a une troisième balise. On a besoin de balises par rapport au futur. Hein. C'est ce que les Américains appellent la réflexion « what if ». Qu'est-ce qui se passe si ? Hein, formuler des hypothèses. On ne peut pas prévoir le futur, c'est évident. On n'a pas cette prétention-là. Mais on peut formuler des hypothèses et se dire « voilà ce qui risque d'arriver et comment je pourrais réagir en fonction de ça ». C'est tout l'art du management dans les entreprises. Un bon chef d'entreprise est quelqu'un qui est capable d'envisager les possibilités et de faire des choix. Et c'est vrai qu'on est souvent frustré quand on voit le comportement des hommes politiques qui naviguent à vue en permanence et qui sont incapables à un moment donné de faire un choix politique et de s'y tenir en disant « j'irai au bout et je ferai telle et telle avancée, telle et telle réforme ». Réforme, ça veut dire du temps. Le problème, c'est que le facteur temps est essentiel à permettre à l'homme qui est petit, fragile et misérable quelque part, de peser sur son environnement. S'il ne se donne pas le temps, il n'a aucune chance d'y arriver. On n'imagine pas un agriculteur qui récolterait quelque chose qu'il n'a pas semé.
Donc, premier conseil, vous nous dites, se poser, voir quel est son projet de vie, on va dire, voilà quel est son projet professionnel, on va dire à 5, 10, 15 ans.
Oui.
Hein, et puis après, voir quelles sont ses priorités et organiser son temps en général et en particulier chaque journée un peu autour de ça.
Voilà, faire des choix. Et effectivement, il y a un grand moment dans la journée qui est ce qu'on appelle le rendez-vous du temps, dans les techniques de management du temps qu'on propose. Ce rendez-vous du temps, il a lieu soit en fin de journée le soir pour le lendemain, soit en début de matinée, tout dépend si on est du soir ou du matin, peu importe. Et là, on va surtout se faire la fameuse to-do list dont vous parliez tout à l'heure, mais en faisant des choix précis de qu'est-ce qui est prioritaire pour ma journée. Toujours raisonner en termes de priorité. Je ne vais pas aller à quelque chose parce que c'est urgent, je vais aller à quelque chose parce que c'est important. Important par rapport à moi, par rapport à mes projets, ou par rapport aux engagements que j'ai pris vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce que je veux avoir fait ? Et c'est là qu'il faut être réaliste. On est souvent beaucoup trop ambitieux. On se programme des journées avec 20 coups de téléphone à donner, avec 2-3 courriers à faire, avec 4 ou 5 rendez-vous. On n'y arrive pas.
Alors
en
ça,
fin de journée,
ça, c'est votre deuxième point, c'est qu'il ne faut pas voir trop grand. Alors
absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que si on a un programme sur 10 heures, par exemple, de vie professionnelle, on va bloquer 6 heures maximum.
Pourquoi ?
Et on va se garder 4 heures pour l'imprévu. Parce qu'il y aura des imprévus. Imprévus externes, avec des gens qui vont appeler, des visiteurs, etc. Imprévus internes, on est dans un groupe social, dans une équipe, et effectivement, les autres auront besoin de nous. Et c'est pareil en famille. Je ne peux pas programmer ma journée tout seul. Il y a une interférence en permanence des uns sur les autres. Et plus on aura du temps, de la disponibilité, cette fameuse disponibilité qu'on reproche souvent à beaucoup de responsables de ne pas avoir. Comment j'organise ma disponibilité ? Quelqu'un qui est bien structuré, il a des moments de disponibilité, des moments pendant lesquels il peut rencontrer les gens, échanger, et ça fait cheminer les choses en douceur et petit à petit.
Alors, deuxième conseil, donc, ne pas voir trop grand. Voilà, une fois qu'on a choisi ses priorités, on va dire de ne pas trop en rajouter. Est-ce que ça implique pas aussi de faire le deuil d'un certain nombre de choses ? Parce qu'on peut aussi avoir de l'appétit, avoir de grands désirs et avoir le désir de faire beaucoup de choses.
Oui, le mot deuil est peut-être un peu exagéré. Ça veut dire qu'à un moment donné...
Mais vous disiez, on prépare l'émission, je ne pourrais pas lire tout ce que j'ai envie de lire, aller voir toutes les pièces
absolument.
De théâtre. Parfois,
absolument.
On peut toute sa vie espérer qu'on ira une
exactement.
Fois par semaine au théâtre. Et en fait, on n'y va jamais que trois fois dans l'année.
Moi, j'adore la littérature et je passe mon temps à acheter des livres Et il y en a, et il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu. Alors je me dis, quand je serai à la retraite, je vais pouvoir me rattraper. Je sais pas si je le ferai.
Vous allez voir Vicster Consulting, alors.
Non, non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à s'intéresser à plus de choses qu'on ne peut capter en réalité, hein. Mais finalement, c'est pas très gênant. À partir du moment où c'est des bouquins, on peut toujours s'y remettre après. Mais c'est plus, difficile par rapport à des concerts, des pièces de théâtre, des films qui passent et puis qui sont plus disponibles après. Mais c'est la vie. Vivre, c'est choisir. Quand vous êtes devant un menu de restaurant, vous ne pouvez pas dire « je veux de tout ». Non. Vous êtes obligé à un moment donné de faire un choix, et puis aujourd'hui, vous ferez un menu viande, et demain, vous ferez un menu poisson, et puis c'est tout.
Troisième conseil, vous parlez de la chronobiologie. Alors, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas, les mêmes degrés d'attention, les mêmes disponibilités. Enfin, il faut aussi s'adapter en fonction de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps à 130 à fond sur l'autoroute. C'est...
Je crois que la chronobiologie, on devrait en parler au début du secondaire, dans l'éducation. Voilà. Et je regrette beaucoup qu'on y soit venu si tardivement dans ce pays. Moi, ça a été une révélation, cette technique de la chronobiologie. Alors, dans le mot chronon, il y a chronos, le temps, et biologie, la science de la vie. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous un chronomètre en nous-mêmes qui nous donne une heure qu'on ne sait pas lire. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas à la minute où l'on parle, si on est dans une phase active, dans une phase passive, dans une phase réceptive ou pas. Et donc il va falloir s'étudier soi-même, le fameux « connais-toi toi-même », pour voir quels sont les moments où on est capable de se concentrer dans la journée, les moments où on est capable d'apporter une contribution forte dans un travail ou dans une vie, et les moments où on a plutôt besoin de se reposer. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît du début d'après-midi, quand on sort de table, le fameux moment qu'on peut réserver à la sieste quand on a du temps, mais c'est un moment où on a beaucoup de mal à se concentrer. Donc dans ces moments-là, c'est illusoire de se programmer des séances de travail très compliquées. Jamais on programme une réunion à 2h de l'après-midi. On sait que ça foirera. Hein. Donc, il faut savoir reconnaître qu'on a des besoins de coupure, des besoins de repos par moment, et des capacités de concentration à d'autres moments. Donc, il faut savoir fixer dans la journée les moments choisis, adaptés par rapport au temps qu'on veut faire. Et dans la chronobiologie, on apprend aussi qu'on a un point clé à respecter, qui est la quantité d'heures de sommeil dont on dispose. La plupart des gens croient qu'ils vont pouvoir accélérer et compenser une heure ou deux heures de sommeil qui leur manque.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut s'observer soi-même et voir de combien de temps de sommeil on a besoin ?
Absolument, absolument. Donc on fait ça.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Parce que c'est pas facile, ça.
Oui,
c'est...
Ben, on fait ça en général la deuxième semaine des vacances. Parce que la première semaine des vacances, on paye sa dette de sommeil, donc on est incapable de s'observer. Dans la deuxième semaine de vacances, on va, par exemple, ne pas mettre de réveil ou quoi que ce soit pour se lever, et on va regarder à quelle heure on se réveille naturellement. Souvent, si pendant l'année on a une heure de réveil qui est toujours la même, on a un premier passage à cette heure-là, et puis on se rendort et on va avoir un deuxième passage. Je vais prendre un exemple, quelqu'un peut avoir un premier passage sur le coup de 7h ou 7h moins le quart, qui est son heure de réveil habituelle, et puis il va avoir un deuxième passage aux alentours de 9h. Voilà. Donc il a un premier réveil, il se dit c'est trop tôt, je suis en vacances, je me rendors, et puis à 9h, il va se réveiller pour la deuxième fois, et là il va dire bon ça va, là j'ai assez dormi, je me lève. Donc on regarde quelles sont les heures de réveil spontanées, naturelles. Pareil pour le soir. Le soir, vous vous rappelez, quand on était petit, on parlait du marchand de sable qui passait. Eh bien on a un premier passage de marchand de sable, tous vers 9h30 le soir. Mais on ne va pas se coucher parce qu'il est trop tôt. Et donc on attend 1h30, 2h et on va se coucher un peu plus tard. Et là on s'endort. Quand on choisit bien l'heure à laquelle on va se coucher, on doit s'être endormi dans les 10 minutes qui suivent. Si on ne s'endort pas dans les 10 minutes qui suivent, ça veut dire qu'on a mal choisi son heure d'endormissement.
Mais qu'est-ce à dire à vous entendre ? Parce qu'on ne va pas se coucher à 9h30 et se réveiller le lendemain à 9h. Enfin, parfois on est des gros dormeurs.
Sauf si on est en dette de sommeil.
Mais on ne peut pas faire, comment dire, il faut faire aussi avec la réalité.
Absolument. Il faut
quand
la réalité.
Alors,
je vais vous citer deux chiffres.
On est obligé de se lever tôt pour aller au travail.
Oui, je vais vous citer deux chiffres. Dans les années 50, le Français dormait autour de 9h par nuit. Aujourd'hui, il dort 7h30. Il faut savoir qu'un homme normal, il a besoin de 4 périodes de 2 heures pour s'endormir, pour se récupérer. Donc 4 fois 2 heures, ça fait 8 heures. Hein. Et la plupart des gens ne se donnent pas ces 8 heures. Donc à partir du moment où ils ne se donnent pas les 8 heures en question, ils partent dans la journée qui suit avec un handicap. Alors, une fois par-ci, par-là, ça va passer. Mais quand c'est accumulé, on revient au phénomène de burn-out. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui vont se réveiller toutes les nuits entre 3 et 4 heures du matin, et là, le petit vélo se met à marcher, etc. Et effectivement, c'est pas pour rien qu'on est les champions du monde de consommation de somnifères. Et ça, c'est terrible, parce que la chimie ne règle jamais le problème. Alors, je ne dis pas ça en jugement de valeur, bien entendu, mais je mets en garde simplement les gens en disant ne faites pas confiance aux médicaments pour compenser un manque d'hygiène de vie. Hein, l'hygiène de vie, ça passe d'abord par le respect des temps de sommeil.
Même si parfois les dépressions et les burn-out sont multifactoriels, c'est parfois beaucoup plus complexe qu'un manque de sommeil, évidemment.
Tout à fait. Mais le sommeil est toujours important. Le sommeil est toujours présent quelque part. Vous voyez, par exemple, dans mon personnel, j'ai des chauffeurs, et dans tous les camions, je prévois systématiquement une couchette, parce que j'estime que les gens qui commencent leur travail à 5h du matin doivent pouvoir faire, au moment de la pause déjeuner, une vraie sieste de 20 minutes à une demi-heure, qui va leur permettre de récupérer. Il faut savoir que quand on fait sa sieste au bon moment, on tombe directement dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de la récupération. Et donc une tranche de sommeil de 20 minutes bien placée dans la journée, quand on s'est bien observé et qu'on se connaît bien, ben va permettre de rattraper 2 heures de sommeil qui ont pu manquer dans la nuit.
Alors, quatrième conseil, le rendez-vous du soir ou du matin. Donc ça, vous avez commencé à en dire un mot, c'est-à-dire qu'on anticipe, voilà, à la fin de la journée, on se dit, tiens, demain, à quoi va ressembler ma journée? Et intérieurement, déjà, on l'a fait défiler, c'est ça? Et puis on se dit, quelles seront mes priorités?
Voilà.
Ce qui est l'occasion aussi, peut-être, de placer autre chose que des réunions de travail. C'est vous pouvez peut-être en dire un mot, il est important aussi de voir quand est-ce qu'on se ressource, quand est-ce qu'on fait des pauses, qu'on prend un peu de temps gratuit, voilà, pour pas se lever le matin et sauter dans la machine à laver.
Vous avez dit un mot qui est essentiel, qui est le mot important. On a aujourd'hui une confusion permanente entre l'importance et l'urgence. Et bien souvent, on nous dérange, on nous sollicite, on nous persécute en disant c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Bon, urgent par rapport à quoi? Qu'est-ce qui doit fixer notre programme de la journée? C'est le choix des choses importantes par rapport à nous-mêmes, notre vie, par rapport à nos engagements vis-à-vis des autres, et par rapport également aux impératifs qui sont les nôtres. Si c'est le jour et l'heure d'aller faire la déclaration d'impôt, il faut la faire. Et combien de fois j'ai été surpris que la dernière nuit, avant la date limite pour aller faire telle et telle déclaration, on trouve tant de gens devant la boîte aux lettres du centre des impôts à aller porter leur déclaration d'impôt à l'époque où on le faisait à la main. Voilà. Donc on a toujours tendance, cette culture du dernier moment, à attendre le dernier moment pour faire les choses. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que du coup on va se stresser. Donc l'idée fondamentale, c'est de se dire, quand on fait son plan de journée, qu'est-ce qui est important pour moi demain ? Tel point, tel point, tel point. Combien de temps ça va me prendre? Là aussi, il y a une évaluation. Il ne faut pas être trop optimiste. Et notamment, sur quoi on a toujours tendance à être optimiste? Les trajets. Oh là, j'en ai que pour 5 minutes. Ce n'est pas vrai. Si c'est 8h du matin ou 7h30 du matin, tu vas trouver des bouchons. Donc, donne-toi du rab. Donne-toi du mou, finalement. Et bien souvent, pour pouvoir bien gérer son emploi du temps, on va conseiller d'aérer les différentes séquences de sa journée. Et là, on ne sera pas stressé. Si j'arrive 10 minutes avant, comme ça a été le cas ce matin, par exemple, je n'étais pas stressé. Hein, j'ai attendu l'heure à laquelle on avait rendez-vous et ça s'est bien passé. Et c'est très important. Apprendre la ponctualité, notamment aux jeunes, c'est essentiel pour leur apprendre à gérer leur stress.
Alors, j'ai une question piège pour vous qui êtes chef d'entreprise. Parfois, quand on est en responsabilité, évidemment, on veut que ça tourne, on veut que ça avance, etc. Et donc, on a tendance à ce qu'on appelle, dire communément, on met la pression. Voilà, on va dire que c'est probablement inhérent, en fait, à tout poste de management, et a fortiori à ceux des dirigeants. Comment arriver à gérer cette contradiction? C'est-à-dire qu'à la fois, il faut, entre guillemets, mettre un peu la pression probablement pour que les gens continuent à avancer. Et en même temps, c'est vrai que côté salarié, souvent, le retour des salariés, c'est de se dire « Mon patron, il veut toujours que j'en fasse 140, alors que moi, j'ai déjà du mal à faire 100. »
Là aussi, il faut être réaliste et surtout partager la culture de la responsabilité. La pression, c'est quoi? La pression, c'est dire à un moment donné « J'ai pris un engagement, j'ai une responsabilité à assumer et je vais être à l'heure au rendez-vous. » Dans tous les sens du terme, je vais tenir mon objectif. Hein ? Si j'ai pris un engagement hier au soir sur telle et telle chose, livrer telle marchandise à tel client à tel moment, à telle heure, eh ben, je ferai ce qu'il faut pour respecter mon engagement. Donc, le point important, c'est l'apprentissage des responsabilités. Pourquoi est-ce que la pression est forte aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déresponsabilisent, qui attendent le dernier moment, qui croient que personne ne remarquera qu'ils sont en retard, qui croient que personne ne remarquera que finalement ce qu'ils ont fait comme travail, c'est pas tout à fait complet, il manque telle et telle partie, qui croient que même leur enfant, vis-à-vis duquel ils ont dit ben, on passera l'après-midi ensemble, il remarquera pas qu'on va pas finalement complètement à l'endroit qu'on avait choisi. On triche. Nous sommes des tricheurs. Donc finalement, l'apprentissage de la responsabilité, c'est l'apprentissage aussi de l'exemplarité quelque part. Je dis ça sans prétention, sans surtout avoir l'idée de jouer les donneurs de leçons. Mais finalement, on a une exigence d'exemplarité. Si on l'assume, ben derrière, c'est plus facile.
Avant qu'on fasse la pause, j'avais une dernière remarque. En préparant l'émission, je suis tombé sur un certain Joël de Ronay. Je ne sais pas si
oui,
vous
bien
connaissez.
Sûr. Voilà, donc, très bien.
Voilà, alors j'ai noté que donc il
grand est, monsieur.
Grand monsieur, conseiller à la présidence, c'est ça, oui. Présidence de la République, et en tout cas qui travaille donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie,
oui.
C'est ça, à la Villette.
Oui.
Et qui donc a, je semble-t-il, été habitué de donner des conseils sur la gestion du temps. Donc on ne va pas tous les citer, mais entre autres, pour faire écho à ce que vous venez de dire, il propose de trier ses activités en fonction de 4 types d'activités. Donc les activités importantes mais pas urgentes, urgentes mais pas importantes, urgentes ni importantes, etc. Donc est-ce que vous pouvez décrire peut-être cette différenciation ?
Alors ça, c'est un outil qui a été mis au point par Eisenhower. Hein, c'est la matrice d'Eisenhower. Effectivement, on fait 4 cases. Et souvent, d'ailleurs, quand j'interviens dans des organisations où il y a des gens qui sont complètement débordés, je leur propose d'attraper 4 feuilles de papier, d'abord, d'attraper une feuille de papier d'abord, sur laquelle ils vont marquer tout ce qu'ils ont à faire. Tout de suite, demain, après-demain, voilà, tout ce qu'ils peuvent recenser comme étant des choses à réaliser à court ou long terme. Une fois que c'est fait, sur cette liste, quelquefois ça fait 2-3 pages hein, quand même, hein, je leur propose d'attraper 4 feuilles de papier sur lesquelles on va classer ce qui est très urgent, on va classer ce qui est peu urgent, on va classer ce qui est très important et on va classer ce qui est peu important. Et effectivement, on va marier le tout. Donc il y aura des choses qui seront à la fois peu urgentes et peu importantes. Celles-là, on va pouvoir les éliminer facilement. Des choses qui sont urgentes mais peu importantes, on va dire, on les fera si on en a du temps. Des choses qui sont ni urgentes mais très importantes, celles-là, c'est celles auxquelles on devrait se consacrer. Mais et comme on a toujours tendance à remettre au lendemain, on diffère. Et puis il y a des choses, enfin, qui sont à la fois urgentes et importantes.
Mais alors,
et c'est là le piège.
Mais il dit qu'il faut commencer par ni urgente ni importante. Pourquoi ?
Ben, parce que ces choses-là, on les élimine. On s'en occupe plus.
Donc on n'en fait jamais. On les fait jamais.
On les fait jamais parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est Eisenhower qui a mis ça au point.
Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant.
Que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. La grande voile, j'ai glissé sous le vent. quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile
et j'ai glissé sous le vent.
C'est comme si je quittais la terre.
J'ai trouvé mon étoile.
Je l'ai suivi.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, donc ce matin, si vous nous prenez en cours de route, une émission Maîtriser son temps, mission impossible, point d'interrogation, et avec François de Berthier, consultant. Donc en management au sein de Vixter Consulting, société qu'il a fondée, c'est possible, voilà, par ailleurs patron d'une entreprise de logistique. Alors dans cette troisième partie d'émission, donc, on a vu un peu la situation, les grands remèdes que vous proposez, hein, si vous voulez, chers auditeurs, les connaître, ils sont intéressants, n'hésitez pas à commander le CD. Dans cette troisième partie d'émission, plongeons peut-être encore plus en profondeur. Parmi les documents que vous m'avez envoyés pour préparer cette émission, vous dites à un moment que le rapport au temps, en fait, il suffit pas d'une certaine manière de trouver un certain nombre d'astuces. Parfois, il y a des ressorts très profonds. Notre rapport au temps dit notre rapport à la vie. Alors, je sais pas, chose banale, peut-être, quand il y a souvent cette expression, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais encore faut-il, dans ces cas-là, avoir envie d'avenir, je sais pas, hein, et du coup, d'avoir envie de se lever tôt, ce qui est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Là, on peut pas faire, chacun peut pas faire une thérapie pour savoir pourquoi ou comment il se comporte de telle ou telle manière. Et en même temps, il y a des questions à se poser.
D'abord, il n'y a pas de modèle unique. Hein, ça, là-dessus, il faut être très clair et il faut être également très modeste par rapport aux choix qu'on peut faire quant à la possibilité de duplication par rapport à d'autres. Hein. Le seul point qui est essentiel, c'est de se dire que finalement, l'homme est complexe et on ne va pas pouvoir trouver son épanouissement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est arriver à trouver un certain épanouissement. Et on ne va pas pouvoir trouver cet épanouissement facilement. Parce que notre besoin est éminemment complexe. On a à la fois un besoin social, on veut participer à une cellule. Si on est isolé dans son coin, ben c'est vrai qu'on peut mal tourner, on peut aussi devenir un ermite. Hein. On a un besoin sentimental, on a besoin d'être considéré, d'être aimé, d'être respecté. On a un besoin intellectuel, on a besoin d'apprendre, de découvrir, de s'initier à des choses. On a un besoin spirituel. Découvrir le sens de la vie, de l'émerveillement, de l'adoration. On a un besoin de nature. On a une nécessité de contact direct avec les arbres, les rivières, la mer, les montagnes, etc. On a un besoin de réalisation. On a besoin de sentir que quelque part on contribue à quelque chose d'important. C'est là aussi qu'il faut faire toucher du doigt à ceux avec qui on travaille, que là on a gagné. Pas toujours faire des reproches, faire de temps en temps aussi des partages de succès. On a un besoin de matière. On a ce contact avec les choses, on a besoin de toucher, de modeler, de construire. On a des besoins physiques, besoin de sentir son corps. Hein. Quand on fait du jogging, par exemple, à un moment donné, ça permet de véritablement apprécier son corps. On a des besoins d'isolement, vous l'évoquiez tout à l'heure, des besoins d'intimité, de silence, de recul. Et ce silence, pour moi, il est très important. On est complètement saturé de bruit. en permanence. Il y a toujours ces fonds musicaux qu'on a partout, notamment dans les restaurants par exemple, qui finalement finissent par nous oppresser. Besoin d'estime, j'en ai encore pour 2 minutes. Besoin d'estime, il faut d'abord avoir confiance en soi, s'estimer, se reconnaître, s'accepter. Accepter qu'on soit tel qu'on est, avec des défauts et des qualités. Besoin d'expression, avoir des moments de joie, de détente, de rire, de chansons, de danse, peu importe, de pleurs. Et besoin de croissance, je finirai par celui-là, tout en besoin de progresser et de sentir qu'il peut se dépasser, s'améliorer dans sa vie.
Cette liste-là, si on a envie de la retrouver, on la retrouve facilement sur Internet ou alors c'est made in François de Berthier.
Oui, disons que ça, elle s'est complétée au fil des ans, hein, mais parce que je me suis aperçu que finalement, on ne pouvait pas régler ce problème-là simplement. Mais je la communiquerai qui la voudra.
Donc en tout cas, c'est la même chose, il faut s'interroger sur ses besoins.
Absolument. Et se dire finalement, si je me sens mal, c'est quoi que je rate ? C'est sur quoi que je peux m'améliorer, progresser ? Ce désir de progrès, il est chez tout homme.
Qu'est-ce que, quand je disais, c'est le rapport au temps est révélateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin ? C'est-à-dire, vous, dans tous les accompagnements que vous avez faits, comment vous aidez les gens à déceler quelque part les raisons non avouées qui font qu'ils ont un rapport au temps parfois, un peu pathologique ou pas ajusté ou...
Ben surtout, je crois qu'ils n'ont jamais réfléchi à la notion de temps. Tout le monde se comporte en vivant dans le présent, et le simple fait de s'asseoir autour d'une table, de réfléchir et de se poser des questions sur qu'est-ce que je choisis pour le futur, pour mon futur, c'est essentiel. Et le simple moment où on va être déconnecté de toutes ces pressions permet de se relâcher, de s'épanouir, d'être bien. D'ailleurs, regardez, quand on fait une retraite dans un monastère ou à Lourdes, par exemple, c'est vrai que c'est des grands moments. On a l'impression qu'on respire, on a l'impression qu'on se régénère véritablement, et on sort de là. Et je me souviens d'une discussion avec des malades à Lourdes qui disaient « Ah ben oui, mais moi j'ai un truc, mais c'est rien. À côté de moi, j'ai vu quelqu'un qui était tellement mal, le pauvre. Donc, ben ça va, je repars, je suis bien. »
Alors ensuite, vous dites qu'il y a différents types de rapports au temps, peut-être en fonction des caractères. Alors vous faites une typologie dans vos formations, semble-t-il. Vous parlez entre autres de 3 grands types de personnalités. Vous dites qu'il y a le réactif, le temporisateur et l'actif, si je ne me trompe pas. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous dessiner peut-être à gros traits ce que ça veut dire? On imagine que chacun a ses défauts et ses qualités dans sa manière d'aborder le temps. Et quand on se reconnaît, quand on sait qu'on est l'un ou l'autre, et ben peut-être ça peut aider à ajuster son rapport au temps.
Alors c'est un schéma, mais il y en a beaucoup d'autres finalement. Mais
cas, c'est le vôtre.
Je veux dire qu'il y a d'autres caractéristiques comme primaires ou secondaires, etc. Bon, introverti, extraverti. Bon, mais on va prendre le cas du réactif par rapport au temporisateur et à l'actif. Le réactif, c'est quelqu'un qui réagit immédiatement devant l'événement, qui va prendre une décision à toute vitesse, qui aime que les choses bougent. Et ces gens-là, souvent, ils pêchent par excès de précipitation. Et ils se piègent eux-mêmes. Et donc, ils sont obligés de revenir sur des décisions qu'ils ont prises, sur des choix qu'ils ont faits, parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi avant. Donc, quand on a un tempérament comme ça de réactif, il faut se donner un peu le temps. Se dire, bon, mais finalement, je reçois un courrier ou une information qui me déplaît. Je réponds tout de suite, violemment. Je vais laisser dormir cette lettre pendant une nuit dans mon tiroir et je la reprendrai demain matin avant de l'envoyer. Donc, se donner un peu du recul par rapport à l'événement. Le temporisateur, c'est à l'inverse. C'est quelqu'un qui, en fait, a de l'angoisse en lui, a du mal à décider tout de suite, et qui a toujours tendance à dire qu'il faut tempérer, qu'il faut reporter. On a du temps pour en venir. Il est urgent d'attendre, etc., etc. Donne autant le temps, tout ce qu'on entend en permanence. Et celui qui a effectivement cette tendance-là, à tout temporiser, finit par se trouver pris de court, parce qu'à un moment donné, la décision se prendra sans lui, ou l'action se mènera sans lui. Donc le temporisateur, il faut l'aider à un moment donné à ne pas avoir peur de s'engager. Donc réfléchir, oui, mais point trop d'en faux. Et l'actif, ben c'est celui qui va faire la synthèse entre les deux. C'est quelqu'un qui voit
cette typologie, j'ai l'impression que l'actif, c'est le super-héros par rapport aux deux autres qui sont un peu des tâches, comme diraient les jeunes.
C'est l'idéal, parce que l'actif est celui qui est capable de mener des actions jusqu'au bout, parce qu'il sait trouver des moments de disponibilité par rapport à lui-même. Il sait prioriser les choses, il sait faire des choix. C'est ça l'idée importante. qu'est-ce qui est important de faire aujourd'hui? Comment je peux m'organiser? J'ai telle étape essentielle dans ma vie qui est à telle date, comment je m'y prends? Comment j'anticipe? Comment je m'y prépare?
Et alors, est-ce que tout à chacun peut devenir actif ou est-ce qu'on est condamné à être un temporisateur ou un réactif?
Ben, y a des sujets sur lesquels on va être naturellement plutôt temporisateur, d'autres on va être plutôt actif et réactif. Bon, il faut arriver à pouvoir arbitrer entre tout ça et s'améliorer surtout. Encore une fois, plutôt que la maîtrise du temps, moi je préfère parler d'apprentissage du temps. On est en apprentissage permanent, je crois que jusqu'au jour de sa mort, on est en train d'apprendre le temps.
Alors vous par exemple, je ne sais pas, sans être indiscret, qu'est-ce que vous apprenez encore? Qu'est-ce que vous avez appris récemment?
Je ne sais pas vous citer un exemple concret, mais c'est vrai que je suis à l'écoute, hein, et que quand il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'avais un conseil très difficile à donner pour une entreprise, et l'idée m'est venue pendant un concert à la Halle au Grain, dans un morceau de solo de violon, je me rappellerai toujours. Et c'est là que les nuages se sont déchirés et que j'ai vu la lumière. Voilà. Donc, cette idée, donc, il y a des moments où on est complètement déconnecté de ses préoccupations, de son travail. On se donne à la musique. Hop! L'idée sort. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça dont on a besoin, effectivement. Arriver à pouvoir ne pas empiler les pressions, les contraintes, les moments où on est de garde ou de service sur les choses, pour pouvoir se donner à fond quand il y a besoin.
Alors, comment ne pas parler de ce passage de l'Évangile, peut-être pour finir l'émission, sur Marthe et Marie. Je redécris brièvement. Donc, Jésus va chez Marthe et Marie, donc à Béthanie, si je ne me trompe pas, où il a ses habitudes, semble-t-il, dans l'Évangile, hein, puisqu'il est lié à Lazare,
voilà.
Qui est donc le frère de Marthe et Marie. Et puis, il est à table, où on imagine comme tel. Et puis, Marthe est très active. Elle s'affaire aux choses de la maison, probablement à la préparation du repas. Et Marie est au pied du Seigneur, enfin, peut-être pas au pied, assise à côté. Et elle discute et elle prend son temps. Et alors Jésus donc Marthe apostrophe Jésus en disant en gros bon ma sœur ne fait pas grand chose, tu pourrais lui dire quelque chose, et Jésus lui dit Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Alors que dire de ce passage de l'Évangile, comment il rentre dans la thématique de l'émission et qu'est-ce que Jésus voulait dire, était-il un consultant aussi en management et est-ce qu'il y a un petit conseil sur la gestion du temps derrière
cette oui bien entendu, qu'est-ce qui était important au moment où Jésus s'exprimait? Jésus, elle n'allait pas l'avoir toute leur vie en face d'elle, et donc qu'est-ce qu'il a essayé de dire simplement quand il disait que Marie a choisi la meilleure part? Ben, c'est qu'elle a choisi de donner toute son attention, toute sa présence à la présence de Jésus parmi eux. Et effectivement, Marthe, tu t'agites, mais finalement, peut-être que tu t'éparpilles un peu. Hein. Qu'est-ce qui est important? Si on a le temps, j'évoquerai un exemple qu'on appelle le pot de mayonnaise et le café. Un professeur de philosophie, hein, qui un jour, devant ses étudiants, prend un énorme pot transparent, un pot de moutarde américain, dans lequel il remplit avec des balles de golf. Il demande à ses étudiants, est-ce que vous pensez que le pot est plein? Ils répondent oui. À ce moment-là, il attrape des billes, et il rajoute les billes entre les espaces des balles de golf en secouant l'ensemble. Il repose la question. Alors, mesdames, messieurs, pensez-vous que le pot soit plein maintenant? Oui, ça y est, là, il est plein. Alors, il va chercher un peu de sable, et il remplit encore un grand gobelet de sable entre les espaces laissés par les billes et les balles. Dernièrement, il redemande, est-ce qu'il est plein maintenant? Tout le monde dit là, oui, ça, maintenant, on ne peut plus rien faire. Et il va chercher deux tasses de café et il les verse dans le pot en question. Alors, tout le monde rit, bien sûr. Alors, juste après, le professeur dit aux étudiants, est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous représenter? Le pot de mayonnaise, ça représente la vie. Les balles de golf sont les choses importantes de la vie. La famille, les enfants, la santé, tout ce qui nous passionne. Avec elles, nos vies sont bien pleines, même si on perd tout le reste, et qu'il ne nous reste que ces choses-là. Les billes, ce sont les autres choses qui comptent, comme le travail, la maison, la voiture, mais qui sont au service des choses importantes. Le sable représente tout le reste, les petites choses de la vie. Si on verse le sable en premier, il ne reste plus de place pour quoi que ce soit, ni balle de golf, ni billes. Et le temps pour les petites choses, s'il est pris entièrement par ces petites choses, nous n'aurons plus jamais de temps pour les choses importantes. Alors, faites attention aux choses qui sont cruciales pour votre bonheur.
Et là, un étudiant demande, et le café, c'est ça?
Voilà. Pourquoi le café? Eh bien, il dit, parce qu'il faut toujours se rappeler même lorsque nos vies paraissent bien remplies, il y a toujours de la place pour une tasse de café avec un ami.
Morale de l'histoire?
Eh bien, où sont mes balles de golf?
Alors, je reviens à ce qu'il nous reste. Il nous reste 3-4 minutes sur l'évangile de Marthe et Marie.
Oui.
Parfois, c'est vrai qu'en écoutant des consultants comme vous, on a envie de dire facile de donner des conseils. Alors bon, vous, d'une certaine manière, vous avez les deux pieds dans la glaise puisque vous êtes chef d'entreprise aussi. Mais c'est vrai qu'on peut sortir de ce type d'émission un peu démuni en se disant « Bon, ben voilà, j'ai entendu des super trucs. Et puis moi, demain matin ou tout à l'heure, je vais me retrouver toujours dans la même course, toujours comme le rat dans sa roue. Et je ne vais pas réussir. » Alors, je ne sais pas, pour finir, qu'est-ce que vous donneriez ? Tout le monde ne peut pas consulter un coach en gestion de temps.
Non, mais déjà...
On peut commander l'émission et la réécouter, déjà.
Tout le monde peut prendre une journée de réflexion. Hein. Et lorsque je forme des dirigeants d'entreprise, ils ont des séminaires qui durent 1 à 2 jours par mois. Et je leur dis toujours, continuez à garder ce rythme. Vous avez vu que pendant que vous étiez en formation avec moi, votre entreprise a continué à tourner et à vivre. Nul n'est indispensable. Donc, gardez une journée par mois, c'est rien une journée par mois, c'est 5% du temps. Hein. Une journée par mois pour prendre de la distance, cheminer, aller visiter une exposition, visiter un confrère, etc., etc. Et je crois que toute personne a la possibilité de se déconnecter pendant une journée et de réfléchir à ses priorités. Et déjà, à partir du moment où elle aura réfléchi à ses priorités, ou après ça, elle prendra le temps tous les jours de programmer la journée qui suit, ben vous verrez qu'elle aura le sentiment de mieux vivre sa vie.
Et du coup, de mieux gérer le fameux sablier.
Absolument. Arbitrer, trier, choisir et faire à fond ce qu'on a choisi de faire. On prend toutes les choses et on les fait à moitié, ou on prend la moitié des choses et on les fait à fond.
Merci beaucoup François de Berthier, donc consultant en management Vixter Consulting. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.